When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Spotzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 145, ici Richard Delhomme. Cette semaine, je discute avec Ryan Legarec. Vous ne savez pas qui est Ryan, mais vous avez déjà certainement vu son travail. Photographe et réalisateur, Ryan a documenté le Tour Divide avec Josh Ibet, la Race Across Rwanda ou encore Migration au Kenya. Ryan a également un projet perso où il raconte ses voyages à vélo, sa découverte du Portugal où il habite et sa passion pour l'Espagne. Les liens utiles sont dans la description de cet épisode. Beaucoup moins élégant que le travail de Ryan, hier j'ai mis en ligne une vidéo où je roule avec Stéphane de la chaîne YouTube Gravel & Bike et Pierre Charles, l'organisateur des Graviers d'Or et Along. Le lien est lui aussi dans la description. Attention dépressif, s'abstenir. Et sans plus attendre donc, Ryan Legarec. Tu m'entends?
Ouais, je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends bien?
Ben ouais, et surtout je te vois. Est-ce que très éventuellement tu pourrais mettre un casque un petit peu plus gros?
Mais j'ai des...
Est-ce que tu aurais moins discret? Non, mais c'est parfait. Non. C'est parfait comme ça.
J'étais sur ces petits écouteurs, mais ça marche pas sur mon ordinateur. Et j'ai juste mon casque de...
De montage.
Ouais, exactement. Ben voilà.
Un excellent casque. Bon, alors, Ryan, on n'a pas beaucoup de temps parce que ce matin, j'ai été retardé par la mauvaise connectivité de Zwift. J'ai mis à jour mon ordinateur la semaine dernière et ça a un petit peu brouillé le Bluetooth. Et quelque chose me dit que s'il y a un truc que tu n'aimes pas, toi, c'est Zwift.
Je ne connais pas, en fait. J'ai jamais essayé.
Ah ben voilà.
Et j'ai un truc là, un turbo, mais il n'est pas smart et surtout il est en train de rouiller parce que je l'ai acheté pendant le lockdown, mais je l'ai utilisé genre 4 fois sur le balcon quand on était bloqué à Lisbonne. Et non, ouais, je fais du vélo dehors.
Ben ouais.
Et c'est, bon, alors c'est on a plein de choses. Facile. Dans le sud, il pleut beaucoup moins, tu vois, donc c'est pas un souci.
T'es toujours au Portugal, là?
Ouais. J'ai déménagé de Bruxelles il y a 2 ans. On était en Belgique et on est venu au Portugal.
Je sais. J'ai cherché quand même. Ouais, j'ai cherché. Alors justement.
Ouais.
Bah alors en fait, j'ai écouté un podcast avec toi tout à l'heure en roulant, donc y a pas mal de petites choses à dire. On pourrait dire que tu roules pas mal, que tu filmes, que tu fais des photos. Il y a juste un truc que j'aimerais que tu développes un petit peu en préambule, c'est ta période suédoise danseur avec un masque de lutteur mexicain.
Waouh, t'es allé chercher loin, la vache.
Non, j'ai rien cherché, c'est toi qui l'as dit. Moi, je me suis juste baissé. Tu racontais que tu étais à un concert avec 2 copines suédoises. Ça, je veux bien que tu m'en parles aussi. Et que, à cette époque-là, tu dansais avec un masque de lutteur mexicain. Voilà.
Quand tu le dis comme ça, ça sonne comme si c'était tout ce que je faisais de ma vie. C'est pas vraiment le cas, mais en fait, j'étais réalisateur et je travaillais avec des compagnie de danse contemporaine suédoise. J'habitais en Suède et il y avait un spectacle dans lequel je participais où j'avais fait la scénographie et puis aussi des installations visuelles. Mmh. Et le chorégraphe voulait que Olof, c'était le, je ne sais pas si tu connais le groupe The Knife, C'était un groupe assez connu suédois. Et en fait, lui, c'était le frère, donc le producteur, le musicien. Et le chorégraphe voulait que lui et moi soyons sur scène à un moment du spectacle et qu'on danse, nous aussi, qu'on improvise. Et Olaf, qui était super créatif, avait ramené du Mexique des masques de catcheurs. Et il a dit on pourrait porter ça. Et on a mis ces masques. Et en fait, c'était super bien parce que le fait d'être masqué sur scène, ça désinhibe complètement. Parce que personne ne peut te reconnaître. Et c'était super rigolo parce que après, dans les après-spectacles, dans les bars ou dans les trucs, on entendait toujours des feedbacks sur nous, genre les catcheurs mexicains, c'était vraiment nul. Ou bien les catcheurs mexicains, c'était génial, on a adoré, ça dépendait un peu des soirs si on était en forme ou pas. Et donc c'était super drôle parce que les gens ne savaient pas que c'était nous. Et c'était une chouette expérience. Ouais, j'ai vécu en Suède pendant 2 ou 3 ans, je crois. Et j'y suis arrivé après avoir été brutalement sorti de l'école de cinéma en Belgique, où j'ai été vraiment bâché en première année. Donc j'ai quitté l'école de cinéma parce que la première année avait donné rien du tout et je devais redoubler ce qui n'existait pas. Et je suis parti en école d'art et puis au bout de 2 mois, l'école d'art, ça m'ennuyait aussi. Et là, en fait, le truc s'est présenté assez naturellement et j'ai eu du boulot en Suède directement. Et donc, j'ai déménagé, je suis parti en Suède travailler.
Comment tu as fait la transition vers le vélo? Parce que c'est quand même assez radical.
Ouais, c'est une super belle histoire. En fait, ça a commencé... J'ai un jour offert un vélo à ma copine qui est devenue ma femme après, peut-être en partie grâce à ce vélo. Mais bref, je lui ai acheté un vélo. Et à chaque fois qu'on se rencontrait quelque part, j'arrivais beaucoup plus tard, j'arrivais beaucoup plus stressé. Et je la voyais, elle, avec un grand sourire, une légère odeur de sueur et toujours la banane. Et je me disais, merde, c'est vraiment cool d'avoir un vélo et de pas dépendre des transports publics. Et donc, je me suis acheté un bête vélo, quoi. Un petit mountain bike. Bref, un peu de temps passe et puis je commence à m'intéresser de plus en plus au vélo et je tombe dans la période fixie et tout ça. Et alors là, je change de vélo et en fait, le magasin où j'avais acheté mon vélo voulait bien me le rééchanger contre un Surly Steamroller qui était un fixie, et c'est là que je suis vraiment tombé amoureux du vélo, sur ce vélo. Et la transition a continué quand j'ai fait un reportage sur les coursiers à Bruxelles, et j'ai commencé à m'intéresser à ce milieu, et j'ai fait un reportage, et puis un autre, et le patron de la boîte qui faisait beaucoup de livraisons express à Bruxelles, tout ce qui était documents, plans, remise de dossier, disque dur pour boîte de prod. Pendant un interview que je faisais avec lui, il me disait « Mais pourquoi tu travailles pas avec nous ?» Et je le regarde et puis je comprends pas. Il voit comment je suis, je n'ai pas le physique du coursier. Puis il me dit « Non, mais je te vois tout le temps sur ton vélo et puis tu pourrais faire ça sur le côté, tu continues à faire tes films, la télé et tout, et puis tu peux faire ça sur le côté. » Et moi, ça me bottait à mort parce que j'étais un fake anger à l'époque. J'avais tout, j'avais le sac. Enfin, je rêvais que d'une chose, c'était de faire des courses comme ça, quoi. Et petit à petit, en fait, je me suis mis à travailler avec eux. Et là, c'est vraiment devenu une passion. Et c'est pas le vélo tant que ça qui est devenu une passion. C'était le métier de coursier. C'est le plus beau boulot que j'ai fait de ma vie. J'ai fait des super jobs. J'ai vécu à gauche, à droite. J'ai fait des tournées mondiales avec des groupes de rock. Enfin, j'ai été moniteur de voile. J'ai fait des trucs vraiment qui sont sexy comme ça de prime abord. Mais le métier de messenger, c'est le truc que j'ai fait qui m'a le plus éclaté, quoi. C'était une addiction. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde.
Là, on parle de quelles années ?
Alors,
on parle de quelles années là?
Ça commence en 2013, je crois, que la compagnie m'a engagé. Je travaillais un à deux jours semaine seulement, donc c'était parfait parce que c'était la bonne manière de garder une vision romantique du truc. En gros, j'avais pas le temps d'être super crevé. Genre, le lendemain, j'avais des courbatures, mais j'allais en tournage. Et puis, deux, trois jours plus tard, je refaisais une journée d'express. Et puis, mon boss me disait toujours, et mon boss qui roulait aussi, hein, qui était celui qui roulait le plus, évidemment, il disait toujours, ça sert à rien d'aller vite. Aller vite, c'est pour les branleurs. Tu dois jamais aller vite, sauf si vraiment t'es dos au mur. Garde tout le temps ton énergie pour plus tard. Et apprends à gérer. C'est beaucoup plus important d'être organisé et de bien communiquer que d'être rapide. Et il m'expliquait toujours, t'es rapide seulement quand t'as vraiment besoin, en fait, de réparer une erreur ou alors il y a vraiment trop d'express d'un coup, quoi. Mais ça, oui, c'était en 2013 et ça a duré quelques temps. Et puis, en fait, toujours des histoires de cadeaux en vélo. Ma femme, qui était ma copine à l'époque, m'a offert un vélo à vitesse pour mon anniversaire. C'était un truc, on s'offrait des vélos pour nos anniversaires. Et là, j'ai commencé à faire du vélo en campagne avec, pareil, le boss de la boîte Pédale Bruxelles. Qui s'appelle Cardamin. Et j'ai commencé à rouler le week-end. Et là, j'ai découvert une autre facette du vélo qui m'a beaucoup plu. Et puis, plus tard, vers 2015, 2016, je crois, même pas 2017 même, j'ai commencé à faire des distances un peu plus longues. C'est arrivé avec le Festive 500. Ça m'a donné cette espèce de challenge de faire 500 km en 8 jours. Et puis, pour moi, à l'époque, c'était énorme. Même si je ne réalisais pas bien qu'une journée de coursier, c'était quand même entre 80 et 100 km finalement. Et après ce challenge-là, les longues distances sont arrivées au fur et à mesure. Et là, je suis tombé amoureux de l'idée de traverser un pays, l'idée de passer des frontières. C'est vraiment quelque chose qui m'a excité énormément. Et un ami qui avait fait la transcontinentale m'a convaincu de m'inscrire. Et moi, je me suis inscrit vraiment en pensant que j'allais pas être pris parce que j'avais aucune expérience, j'avais jamais fait une seule course de ma vie, j'avais fait des 200 bornes, des 300 bornes, mais j'avais jamais fait des 200 bornes deux jours de suite, donc j'étais absolument pas prêt pour ça. Bizarrement, ils m'ont quand même pris. Et après avoir fait la transcontinentale, là, il y a eu vraiment un déclic. Je suis désolé, c'est une longue réponse, mais c'est pas une transition si brutale que ça, en fait, la transition vélo. Ça a pris beaucoup de temps. Mais la transcontinentale, ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça a été une expérience super difficile, mais aussi super excitante, et ça m'a appris beaucoup de choses. Et quand tu rentrais de la transcontinentale, tu m'entends?
Ah, mais je t'écoute.
Ah, pardon. Quand je suis rentré,
c'est juste que je suis pas le genre à interrompre. Je suis juste pas le genre à interrompre à tout bout de champ. Et puis en plus, je reste un petit peu sur ma fin parce que là,
l'image s'était fixée, c'est pour ça.
Ouais.
J'étais pas sûr.
Non, non, moi, j'attends juste que tu reviennes sur tes deux copines suédoises. C'est juste ça pour la transcontinentale. Non, vas-y, continue la transcontinentale.
Ouais. Donc je fais la transcontinentale et quand je rentre dans la transcontinentale, Restrap. La marque anglaise de sac me demande si je peux éventuellement leur donner quelques photos de mon voyage parce que j'avais un sac de cadre à eux. Et je leur dis ouais, bien sûr. Je leur demande combien ils vont me donner parce que j'ai l'habitude de vendre des photos, mais ils me disent ah non, nous on fonctionne pas comme ça, on n'a pas de cash, mais on veut bien te donner des petits trucs. Ils m'ont donné un mug et un patch. Et j'étais super content.
Génial.
Non, mais c'était pas. C'était. J'ai demandé parce que c'était.
J'espère que ça t'a aidé à payer ton loyer après.
Non, ça m'a. Ça m'a aidé à changer. En fait, ça m'a beaucoup aidé. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ils m'ont demandé si je pouvais ajouter un petit texte. Et là, j'ai pondu genre 5000 mots. Et puis, je me rappelle très bien ce qui s'est passé, c'est que pendant que je l'écrivais et que je posais mes photos, je me suis dit, waouh, ce serait vraiment un super job, ça, en fait, de partir en vadrouille et puis de revenir et de raconter l'histoire. Et je me rappelle très bien du moment où j'ai eu ce rêve, parce que j'étais dans la cuisine, et puis j'ai regardé ma femme et je me suis dit, putain, ce serait vraiment trop cool de faire de ça un job. Et comme ma femme est très just do it, elle m'a regardé, elle m'a fait, bah, qu'est-ce que t'attends? Et en fait, ça a été un petit peu l'idée a germé à ce moment-là. Et puis, petit à petit, je suis sorti de la télévision où je m'éclatais, mais où je commençais quand même à faire un peu tout le temps la même chose. Et là, je suis arrivé vers les films de vélo. Et au début, ça a commencé avec un article pour The Riderist sur les coursiers à Bruxelles. Puis j'ai fait un article sur une journée de coursier avec Carlama, et puis j'ai fait un article sur un autre coursier, François, One Arm Bandit, qui est assez connu parce qu'il a qu'un seul bras qui fonctionne. Et il a dû créer sa boîte, en fait, parce qu'aucune boîte ne voulait le prendre comme coursier. Et donc, j'ai écrit son histoire. Et puis là, on a commencé à bosser ensemble avec The Riderist. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, je suis arrivé sur des courses à filmer des courses de longue distance, ce qui était ce que je voulais vraiment faire. Et puis, voilà, ça a progressé de rencontre en rencontre. Et maintenant, c'est devenu un petit peu plus régulier. Mais entre-temps, j'avais un peu laissé de côté ce rêve d'être sur le vélo, en fait, et de faire ça moi-même sur le vélo. Et puis, c'est revenu pendant le lockdown. J'avais plus de course à filmer. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, je vais filmer mes propres rides à moi. Et puis là, il y a eu un retour de marque qui m'a dit, ah, mais c'est cool, ça. Nous, ça nous intéresserait que tu en fasses plus et puis qu'on t'aide financièrement avec du matos, avec de l'argent et que tu puisses faire ça. Et du coup, maintenant, c'est devenu un petit peu une réalité. C'était une longue réponse.
Pourquoi le film... Mais c'est parfait, j'adore. Ça m'évite de poser plein de questions et de réfléchir trop. Je déteste ça.
Mais le truc, c'est que ça fait. Ma femme me disait ça. Elle me disait, elle parle en anglais. Elle me dit, ah, you're really chatty. T'as vraiment envie de parler. Je dis, ça fait 8 jours que je suis sur le vélo. J'ai parlé à personne. Donc,
là, t'es.
On peut discuter toute la journée.
Là, t'es prêt là. Alors malheureusement, ce ne va pas être le cas, mais si on manque de temps, on fera un épisode 2, ce n'est pas un problème. De toute façon, il faudra qu'on se parle de toute façon à côté pour toute autre chose. Okay. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi le film avec Josh Hibbett n'est plus disponible, ou en tout cas, comment on peut regarder le film avec Josh Hibbett sur la Transcontinentale 2019.
Non, sur le Tour du Vail.
Ouais, pardon. Pardon.
En fait... Le film a été disponible sur YouTube pendant un an gratuitement, mais une boîte de diffusion me l'a racheté pour pouvoir eux le distribuer. Ils l'ont distribué par exemple au Brésil à la chaîne Globo, ils l'ont distribué en Russie, ils l'ont distribué au Japon et ils le distribuent sur Amazon. Donc le film est accessible sur Amazon. En pay-per-view, il est sur Amazon. Et en fait, c'était un moyen de démarcher plus de public en dehors de notre niche. Parce que eux vendent des films d'aventure, mais ils les vendent à des télévisions, à des compagnies aériennes, qui ne l'achèteraient pas si le film était complètement disponible sur YouTube. Maintenant, c'est très frustrant parce que pour tous les gens de notre niche, pour qui ce film a été fait, c'est pas un film facile à regarder pour le grand public du tout. Donc, c'est un pari risqué de dire, on va essayer de le montrer à Tata. Mais c'est une frustration de qu'il soit plus disponible pour notre niche parce qu'il a été fait pour des gens qui comprennent un petit peu ce qu'ils regardent. Ils s'aventurent pas dans ce film en n'ayant aucune idée de ce que c'est. C'est vraiment la manière dont on l'a filmé. C'était vraiment mon but. C'était de faire un film qui raconte pas du tout l'histoire du Tour du Vail, qui n'essaye pas de dire voilà, ça c'est jour 1, il se passe ça, et puis il est fatigué, et puis il a faim. Et puis... Parce que je pensais que ça avait déjà été fait 2000 fois. Mais par contre, d'essayer de donner une espèce de vision introspective et une espèce de de feeling de ce que c'est d'être sur le vélo pendant un temps comme ça. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il a ce titre. Le temps devient complètement malléable, devient complètement abstrait avec la distance qui s'accumule et la fatigue et la répétition des journées qui sont extrêmement dures et longues. Et donc, on voulait vraiment travailler sur cet aspect-là et donner une vision qui soit plutôt poétique et introspective que descriptive et événementielle. Donc voilà, le film n'est plus sur YouTube pour cette raison. Mais on est en train de penser qu'on va peut-être faire une version courte, en fait, parce qu'il est très long aussi. Mmh. Il faut le manger, le film. Je crois qu'il dure une heure et demie. Et on pense à faire une version courte, justement, pour l'avoir en accès libre sur YouTube.
Est-ce qu'il faut vraiment être descriptif quand on veut s'adresser au grand public ? Je veux dire, en termes de narration, est-ce qu'il faut vraiment rester sur un jour 2, comme tu disais, jour 1, jour 2, jour 3, pour que ce soit plus facile d'accès ?
C'est ce que beaucoup de gens pensent. Beaucoup de gens pensent que, surtout aujourd'hui, qu'on ne peut pas faire des films où on commence par le milieu et... C'est super difficile aujourd'hui de défendre une vision différente du film, et encore plus finalement, ce qui m'étonne et me frustre, encore plus dans le cyclisme, où j'aurais pensé qu'on serait complètement lâché. En travaillant avec des chaînes comme GCN ou en travaillant avec quelques grandes marques, je me rends compte que c'est difficile de présenter une vision différente, et il vaut mieux avoir les reins solides si on veut présenter un truc différent. Après, moi, c'est pas dans ma nature de faire des... J'ai fait de la télé, mais même en télé, on explosait complètement le format à chaque fois qu'on faisait nos mini-documentaires. Moi, j'ai beaucoup de mal, en fait, avec les films qui sont un peu faciles à digérer, évidents. J'ai cette impression que quand tu manges quelque chose... et que tu prends relativement du plaisir pendant, mais deux jours plus tard, t'as complètement oublié. C'est pas la ratatouille de ta grand-mère, quoi. C'était juste un hamburger dans un fast-food. Et j'ai ça beaucoup avec certains films, même sur l'Ultra, où je les regarde, et sur le moment, je suis content, les images sont belles, il y a des interviews, mais il n'y a pas quelque chose qui reste avec moi. Et moi, c'est ça qui m'attire dans le film. C'est des films qui sont peut-être un petit peu plus difficiles sur le coup, mais qui après laissent une trace. Mmh. Et le film, par exemple, The Length of Time, sur le Tour Divide en 2019 avec Josh Hibbett, sur Amazon, les critiques sont super dures, quoi. C'est vraiment genre... les gens détestent le film. Ce qui me fait relativement rire, parce qu'ils ont malheureusement payé pour le regarder. Donc... C'est dommage, ça me donne toujours envie d'essayer de les contacter et de les rembourser. Mais c'est pas possible via Amazon. Donc voilà, ouais, non, je pense pas qu'il faille être abaissé et être aussi clair que ça. Maintenant, je pense aussi que c'est intéressant de partager les choses qui se passent dans notre milieu avec le plus grand nombre. Et de faire des films qui puissent être regardés par notre grand-tante ou notre cousine Hermine, qui n'a jamais fait de longue distance. Quoi. Donc il y a une balance entre les deux.
C'est étonnant parce qu'il y a quand même pas mal de films, même pas de fiction. Là, je pense à un, notamment War Dogs avec Jonah Hill, qui est pourtant pas tout à fait chronologique, ça commence par la fin.
Oui, j'ai pas vu ce film, mais oui, non, il y a... C'est pas tant la chronologie, je pense, mais c'est plus... tout le monde veut une histoire aujourd'hui. Tout le monde veut une histoire avec un début et une fin. Même si on commence par la fin, ils aiment bien... par exemple, une des critiques du film aux États-Unis, c'était qu'on ne comprenait pas bien ce qui se passait, où il était, quand c'était... Le film, c'est vraiment une diatribe de dates et d'heures et de nombre de kilomètres. Ça, on est assez clair et net avec. Mais les gens auraient voulu un interview posé et des choses comme ça. Je crois que c'est assez, ouais, c'est assez difficile à vendre une vision différente aujourd'hui. En film.
C'est peut-être d'autant plus difficile que souvent, maintenant d'autant plus avec l'essor des plateformes en ligne, les documentaires, notamment aux US, ont un petit peu toujours tendance à se ressembler avec la même structure. L'histoire et le sujet changent, mais la structure est quand même souvent très très similaire.
Ouais, définitivement.
Et qu'est-ce qui changeait vraiment pour toi en termes de narration sur le vélo et comment t'as continué à creuser un petit peu tout ça, à la fois d'un point de vue marque, mais aussi sur tes projets persos, comme là avec Fail.
En fait, avec les marques, par exemple, The Length of Time, il a été produit exclusivement par Hunt et ils ont été super audacieux. Ils nous ont fait une carte blanche. Ils nous ont dit ramenez un film et ramenez ce que vous voulez. On est en pleine confiance et on a hâte de voir ça. Mais donc du coup, on savait qu'on pouvait prendre tous les risques qu'on voulait. Avec Fail, c'est un peu mon projet personnel, donc c'est mon bébé, donc les marques n'interviennent pas. Je leur demande si ça leur plaît et c'est tout. C'est mon problème.
Pourquoi tu leur demandes si ça leur plaît?
Pour savoir si je peux les faire payer le prochain.
D'accord. Est-ce que c'est obligatoire qu'elles aiment ou au moins qu'elles trouvent un sens à ce que tu fais et au moins une résonance dans l'audience que tu as et qu'elles pourraient avoir? Est-ce qu'on est vraiment obligé d'aimer quelque chose pour l'apprécier?
Ouais, c'est une question vache. Je sais pas. Je vais dire je sais pas. Je pense que s'il y a une diffusion conséquente derrière, c'est toujours bien pour la marque. Mais les marques avec lesquelles je travaille en général ils viennent parce qu'ils croient au projet, parce que le projet est tellement différent d'autres projets. Enfin, c'est pas une pub quoi, c'est pas spécialement beau l'effet. Je veux dire, je suis pas un modèle sur un vélo. Si je devais vendre des bib shorts, je ferais pas fortune. Donc les marques viennent pour autre chose que ça. Ils viennent parce qu'ils sont d'accord avec le concept et qu'ils aiment bien l'idée de montrer un cycliste qui galère quoi et qui est pas né avec les gènes du cycliste parfait, qui a pas le corps d'un vermicelle et qui a pas la puissance d'un Van der Poel mais qui par contre voilà quoi, genre dépasse un peu ses propres limites et se met en danger et puis revient avec les images avec les yeux pleins d'étoiles et ça je pense qu'ils aiment bien. Mais est-ce qu'ils doivent aimer? Oui je pense que s'ils aiment pas quelque chose, ils auront pas envie de le soutenir très longtemps.
Y a quand même, là, tu viens quand même de donner la définition même d'une histoire. Il était une fois que dans une forêt lointaine, un jeune palefrenier rêvait de séduire la princesse. Or, il n'est que palefrenier. C'est quand même ça, l'histoire. Et toi, tu es le jeune palefrenier sur ton vélo qui veut te taper la princesse.
Le truc, c'est que c'est un peu ce qui est compliqué. Moi, j'ai un problème avec... et c'est ce que ma femme me dit tout le temps, genre... What's the story? What's the story? Et des potes aussi qui me disent toujours, genre, c'est quoi l'histoire? Et je suis là, genre, l'histoire, je sais pas, mais le ressenti, je sais. Et c'est là-dessus que je veux travailler. J'essaye pas d'écrire une nouvelle, j'essaye d'écrire des poèmes. Je crois que si je devais le résumer, c'est ça. Et pour moi, un poème, c'est une histoire sans fin. Une nouvelle, c'est une histoire. Et j'aime bien l'idée de donner une odeur ou une image. C'est pour ça que j'ai changé un petit peu le concept parce que ça commençait à être trop une forme d'épisode. Et puis, un pote me disait, ouais, c'est vraiment chouette, c'est un vlog sophistiqué. Puis j'étais là, genre, merde, j'ai vraiment pas du tout envie que ce soit un vlog. Donc,
Et du coup, c'est toujours ton pote ou pas?
Oui, bien sûr. Ouais.
Ah ouais. Ouais. Parce que là, quand même, c'était un sacré camouflet quand même. Hein. Putain, ouais. T'essayes de faire un truc super intimiste et au bout du compte, bah, même si ça se ressemble, ça devient un genre de blog bizarre.
Sophistiqué, bon. C'est pas. C'est un vlog sophistiqué, moi, ça me plaisait comme. Mais par contre, l'idée, c'est pas du tout de faire un vlog. Donc, le dernier épisode que j'ai fait, toujours dans cette trame, c'était. Le film est divisé en windows, en fenêtres, et c'est un petit peu plus. L'idée du film, c'est que c'est pas un film, c'est pas un épisode, c'est un collage multimédia. Donc, l'histoire est pas dans le film. L'histoire, elle est dans le mélange entre les photos, les vidéos et le texte. Et l'histoire, elle est pas forcément dans le ABC du voyage en l'occurrence. C'est pas genre, j'ai fait 200 km aujourd'hui. C'est, non, j'ai, aujourd'hui, ce que j'ai fait m'a rappelé quand j'étais petit et qu'on est allé traverser la Corse avec mon père et que je pensais que ça allait me saouler. De marcher parce que je détestais marcher et puis je me suis rendu compte qu'en fait je détestais marcher quand on faisait un tour quelque part.
Une boucle.
Ouais, une boucle. Mmh. Et que tout d'un coup, en fait, quand tu devais aller du point A au point B, ben, j'étais complètement focus sur le point B et j'étais là, genre, une fois que j'arrive au point B, je dois plus marcher, donc j'y vais, je fonce et puis j'arrive au point B. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me rendais compte que j'étais plus dans le moment et que je suis tombé amoureux. T'sais, enfin, c'est ça, c'est un peu ça. Voilà, je me perds un petit peu, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Mais ouais, c'est un peu plus ça que j'essaye de faire. C'est quelque chose qui est pas. C'est pas des épisodes. C'est pas l'histoire de seulement moi qui me galère sur mon vélo. C'est tout ce qui va avec. Et c'est des petits moments de vie et c'est un peu. Ouais, venez avec moi, je vais vous montrer comment c'était. Et je vais vous montrer quelques parties de comment c'était. Moi, je vais vous montrer ce qui s'est passé dans ma tête à un moment. Et puis, qu'est-ce qui a attiré mes yeux sur une photo et, et quelle personne j'ai rencontré et qu'est-ce qu'il m'a dit. C'est ça. Une odeur. Une
moi, j'ai bien aimé le mec avec son petit chariot et on le voit ouvrir et à l'intérieur, il y a un instrument de musique. Celui-là, je l'ai vraiment aimé.
C'est son hôtel.
C'est,
hein.
C'est en voyant ça, en fait. C'est son hôtel.
Ah, il dort dedans. Ouais. Il a ça accroché à son scooter. Et il a un petit réchaud. Il m'a fait un café au bord de la route.
Ouais.
Et c'est un drôle de type. C'est exactement ça. Cette petite séquence, elle est en plus, en termes de comment elle est arrivée dans le concept, c'était vraiment parfait parce que c'était vraiment le moment où j'étais complètement perdu et je savais plus quoi faire. J'étais là, genre, merde, j'ai pas vraiment d'idée. Et tout ce que je savais, c'est que je voulais rencontrer les gens. Et c'était le premier jour. Et ce type se traversait le Portugal, finalement, en bikepacking, mais avec un scooter et un trolley derrière qu'il avait construit lui-même parce que c'était un ancien ferronnier et dans lequel il avait son lit, son réchaud et sa guitare. Et tous les jours, il allait chanter dans les marchés et puis il se faisait un petit peu d'argent comme ça pour s'acheter son déjeuner et son dîner. Et il se promenait comme ça et j'ai trouvé ça magnifique. Je suis content que t'aies accroché avec ça.
Bah, c'est en ayant vu ça, parce que j'ai vu passer l'article sur Zora Davist, donc j'ai regardé, j'ai lu un petit peu, j'ai regardé cette vidéo et je me suis dit, tiens, il faut vraiment que je fasse un épisode avec Ryan parce qu'on avait déjà discuté un petit peu il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus. Et j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Et en voyant ça, je me dis, ouais, ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment plus intéressant que les trucs de vélo qu'on peut voir habituellement, qui sont cool de temps en temps. On en voit quand même malgré tout. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté rencontre, vraiment sur les rencontres et sur des impressions un petit peu subjectives ou quelque chose de moins palpable peut-être. C'est difficile à expliquer finalement, mais il y avait quelque chose de plus poétique et de plus fragile, peut-être.
Je crois que un des éléments magiques du vélo, et surtout du vélo en longue distance, c'est à quel point ça devient plus facile de rencontrer les gens. Josh, je crois qu'il dit ça au début du film qu'on a fait, c'est quand tu te mets dans un état vulnérable et tu arrives à une station-service et tu pues et toute ta vie est sur ton vélo, tu as beaucoup plus de chances que quelqu'un vienne te parler, s'intéresse à toi, veuille t'aider, participe à ton projet, que le type qui arrive dans sa voiture et puis qui sort et qui va payer son essence et qui porte son costume. Personne ne va lui poser de questions. Il n'est pas abordable, il n'est pas... Il ne vend pas du rêve, quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et que j'espère montrer du mieux que je peux. C'est les gens qu'on rencontre sur le chemin.
Et du coup, Fail, pour résumer, c'est une série au long cours. C'est quoi ? C'est à travers le Portugal ? C'est un petit peu à travers là où tu roules ? Ou c'est localisé ?
Non, c'est complètement ouvert. Il y a un épisode qui était au Kenya quand Komoot m'a envoyé faire la Migration Barrowers. Ça peut être partout. Là, il va y avoir un épisode au Rwanda. Si tout se goupille, le prochain épisode est au Rwanda. Et c'est né du besoin d'aventure avec aucune possibilité de prendre un avion ou d'aller loin, et avec surtout aucune envie. Genre, quand j'ai commencé, on était en pleine pandémie, et tout ce que je voulais, c'était prendre l'air. Même l'idée, et ça m'est arrivé deux ou trois fois, de prendre un train m'énervait, parce que j'étais là, genre, non, je veux rentabiliser mon temps, je pars de chez moi à vélo, je reviens chez moi à vélo, il n'y a pas d'essence, je ne pollue pas sur le chemin. J'adorais l'idée que c'était aussi montrer une manière accessible de partir à l'aventure. C'est très low cost, finalement, c'est donné à tout le monde. J'ai pas une tente Big Agnès, j'ai pas le matériel dernier cri, mais ça m'empêche pas de prendre mon vélo et de faire 1000 km en quelques jours et de voir du pays. Et c'était cette liberté. Et donc ça a impliqué finalement de le faire dans un périmètre assez restreint. Après, ça a explosé quand je suis parti au Kenya. Là, c'était complètement différent. Et moi, j'ai définitivement envie de voyager plus loin, mais j'ai deux enfants et une femme et une famille. Et comme je passe tout mon temps sur le vélo, ça devient un petit peu compliqué d'aller très très loin sur un temps réduit. Donc c'est vrai que ça commence à être... Par exemple, en ce moment, mon grand truc, c'est l'Espagne. L'Espagne, c'est à 250 km de chez moi, je crois, donc c'est pas si loin que ça, et j'adore aller en Espagne parce que j'ai toujours ce truc, j'ai besoin de traverser les frontières, d'être dans un autre pays, c'est toujours quelque chose qui m'excite comme rien au monde, quoi. Donc j'espère aller de plus en plus loin.
Bon, dans l'immédiat, en tout cas, tu vas aller au Rwanda, puis au Kenya.
Ouais.
Si on parlait un petit peu, il y a un sujet qui m'intéresse énormément en ce moment, c'est justement l'essor du cyclisme dans ce coin de l'Afrique.
Ouais.
Et on voit que ça bouge grave justement avec la Tanzanie, ouais. avec le Kenya, avec la Tanzanie, ouais. Avec le Rwanda. Ouais. Comment tu t'es retrouvé là-dedans ?
Complètement par hasard. Quand on a filmé notre première course avec Lander, avec qui je travaille, on s'est retrouvé en Oman sur le Biking Man. Et parmi les gens qui étaient en Oman sur le Biking Man, il y avait Josh Yvette, avec qui on a après beaucoup travaillé créé une relation précieuse. Mais il y avait aussi Simon de Schutter, qui est un Belge, flamand de Gand, je crois. Et quelques années plus tard, deux ans plus tard, il organisait la Race au Rwanda. Et donc, comme je le connaissais un petit peu, je lui ai écrit et je lui ai dit, vous ne cherchez pas un réalisateur éventuellement? Puis il m'a dit, on ne cherche pas vraiment, mais on cherche. Et à chaque fois qu'on en rencontre, on leur montre ce que tu fais en leur disant que c'est ça qu'on veut. Et je lui ai dit, mais c'est génial, pourquoi c'est pas nous alors? Et il me dit, parce que je pense pas qu'on puisse se le permettre, je pense pas qu'on puisse vous payer. Et en fait, il pensait qu'on coûtait vachement cher. J'étais un peu désolé de lui dire qu'on coûtait pas si cher que ça, finalement. Et lui, il était pas du tout désolé, il était très content. Et du coup, il nous a invités à filmer le Race au Rwanda. Et là, ça a été vraiment un gros flash parce que au Rwanda, le vélo, c'est le mode de transport dominant. Il y a plus de vélos que de voitures, il y a plus de vélos que de camions, il y a plus de vélos que de trains. Il y a des vélos taxi, donc c'est des vélos avec un siège à l'arrière sur le porte-bagages, en fait, qui prennent des gens et qui les amènent partout. Il y a des vélos cargo qui sont chargés avec peut-être 100 kilos de patates ou 50 kilos de café ou bien 3 chèvres. Enfin, on voit des trucs hallucinants. Et tous ces vélos ont une particularité, c'est qu'ils sont tous single speed. Souvent, ils n'ont pas de frein. Et on est dans un pays qui est jamais à moins de 2000 mètres d'altitude et où il n'y a pas une seule route sans dénivelé. Il n'y a pas de route plate au Rwanda. C'est surnommé le pays des mille collines. En fait, c'est le pays des mille montagnes parce que c'est des vraies montagnes, c'est pas des collines. Et il y a une puissance naturelle, il y a un talent naturel pour le vélo qui est complètement. C'est assourdissant quand on voit ça parce que on voyait ça pendant la course et on voyait aussi quand on filmait pour GCN avant avec Josh. Il y a des types sur les single speed qui doivent peser 15 kilos. Ils sont en flip-flop. Ils font du 300 watts sur une côte pendant 20 minutes à côté de Josh qui est en train de tout donner. Et ils donnent tout aussi, mais ils tiennent sur des vélos qui ne sont pas du tout les mêmes, quoi. Je crois qu'il y a un vrai laisser-aller dans le cyclisme international de laisser ce talent complètement. Ignoré quoi. Et il y a énormément de courses comme la Race au Rwanda, comme tout ce que fait le Team Amani avec la Migration et maintenant la Revolution. Il y a le Masaka Cycling Club qui aide des jeunes en Ouganda qui sont des talents phénoménaux. Et là, Zwift est particulièrement utile parce que ça les met en compétition avec des Européens. Les détruisent, ça permet un petit peu de montrer peut-être à la fédération qu'il y a un talent. Il faut aller aider à développer le cyclisme en Afrique parce que c'est ridicule. On n'a pas de champion du monde en fait dans le cyclisme. On a des champions du monde blanc, quoi. On a des champions de l'Occident. On n'a pas de champion du monde. C'est pas vrai. En football, on a des champions du monde, on peut le dire, mais en vélo, non. Tant que ces gens-là n'auront pas les mêmes opportunités, la fédération internationale ne sera pas internationale. Et une grande partie du talent cycliste sera inexploité. Et c'est complètement injuste. Et maintenant, on voit avec les championnats du monde qui vont être au Rwanda en 2025, et avec des courses comme la Migration ou la Race au Rwanda, où on montre ce que les Africains peuvent faire contre les Européens, enfin, on en a vu à Migration Gravel Race, on a vu Geoffrey qui a battu Lawrence Stendham et Ian Boswell dans une course. C'est quand même hallucinant que tu mets une course de gravel et puis tu as un Kenyan qui bat l'Américain qui a gagné Unbound et Lawrence Stendham, un ex-pro. Et ça clique tout doucement, hein.
Bah, les, les,
Ça clique tout
les deux
doucement.
sont, les deux sont, les deux sont ex-pro. Je suis en train de
Ouais.
regarder un truc parce que je crois que c'est en ce moment. Attends, il y a quelle course en ce moment? Là, il y avait Oman la semaine dernière, mais je crois bien qu'il y a le Rwanda en ce
Oui,
moment
le
sur
Tour du
route.
Rwanda est en ce moment, ouais. Ouais.
Ouais, c'est en
Ouais,
ce
c'est en
moment,
ce
ouais.
moment.
Mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis plein de, bah, comme tu viens de citer, le Team Amani, plein de trucs comme ça sur Twitter et je trouve ça génial. Et c'est l'année dernière, j'avais fait un épisode avec Jabig, qui est un DJ basé à Montréal et qui est rwandais. Et là, il est parti sur un truc vraiment vraiment long. Et je trouve ça hyper intéressant, justement, de voir comment le cyclisme s'internationalise, comment on donne un petit peu plus d'opportunités à des endroits du monde bah, où pourtant il y a vraiment un potentiel. En plus, on le voit déjà en athlétisme. Mais on commence à le voir maintenant en matériel pour un peu qu'il soit un petit peu équipé.
Ouais.
Ça va
bah,
vite,
c'est la,
ça va très très vite.
en fait, c'est la grosse différence, c'est que c'est plus facile pour un Kenyan de faire de la course à pied que
Bah
du
oui.
vélo, quoi. Et ils ont montré avec la course à pied qu'ils pouvaient détruire tout le monde. Mais avec le vélo...
À pondérer, parce qu'ils ont quand même un système de dopage extrêmement bien rodé et extrêmement destructeur aussi. Parce que effectivement, ce sont les Kenyans et les Éthiopiens éventuellement qui dominent en athlée. Mais il y a aussi quand même beaucoup de dégâts. Donc pour quelques-uns qui dominent, il y en a aussi beaucoup qui restent sur le carreau parce que les méthodes d'entraînement sont super brutales. Ouais. Et si tu n'as pas recours à un dopage massif... Il y avait eu l'année dernière ou deux ans un documentaire allemand, je crois, où tu voyais les mecs venir se faire injecter dans une rue à Nairobi. Enfin, c'était... Wow. En termes sanitaires, c'est quand même parfois super, wow, super limite.
Wow. Okay,
Donc, ouais.
Il y a un truc intéressant.
Mais ce qui n'enlève rien à leur qualité athlétique. Ouais. Parce qu'au bout du compte, tu vois, pour être là, à un moment donné, il faut quand même être juste là. Et l'injection, elle permet de passer ce petit gap éventuellement. Ouais. Mais on voit plein d'Européens ou de Français à une époque qui ont voulu aller s'entraîner au Kenya. Bah, ils sont revenus un petit peu fracassés quand même. Hein.
Ok. C'est un truc important dont je parlais il y a pas longtemps avec Simon de Race Run Rwanda. Ils sont en train de créer leur équipe Beyond et ils m'expliquaient le problème, c'est pas de donner l'opportunité du cyclisme à des jeunes, c'est pas que ça, c'est de leur donner ça sans leur enlever tout le reste, sans leur enlever l'école. Au Rwanda, il y a pas beaucoup d'heures de soleil vu que c'est sur l'équateur. Et donc, en fait, il m'expliquait que les jeunes qui ont un talent naturel et qui vont être pris par la fédération de cyclisme ou qui vont être entraînés, ils vont être obligés de lâcher leurs études parce que c'est au même moment que l'entraînement. Ouais. Et il me disait, nous, ce qu'on veut faire, c'est justement garder les deux, qu'ils aient une éducation, mais qu'ils aient aussi le cyclisme comme potentiel. Et je pense que c'est important de toujours garder en tête que c'est bien de vouloir donner une opportunité, mais faut pas en fermer trois autres en même temps, quoi.
Ouais. Bah, en France, il y a déjà, ça fait un moment qu'il y a ce débat, tu vois, on voit pas mal de jeunes pros, d'espoirs ou même de juniors ou même avant qui misent tous sur le vélo et qui mettent les études complètement de côté. Et des fois, ça passe, c'est super, hein. Mais la plupart du temps, ça passe pas du tout et que tu te retrouves sur le carreau avec tes souvenirs de coureur. Ouais. Bon, c'est un petit peu dommage quand même. Ouais. Et la reconversion chez les pros, c'est encore un moment extrêmement difficile.
Ouais.
Parce que beaucoup ont lâché l'école beaucoup trop tôt. Et puis la vie de pro, c'est pas non plus quelque chose qui t'enseigne l'autonomie, l'indépendance et puis les qualités nécessaires à la vie professionnelle. Donc c'est pas un moment super super rigolo, la reconversion. Et tu vois, pour finir sur le... Parce que là, on parle de vitrine, d'opportunité. Là, c'est dommage parce qu'il a eu son terrible accident. Mais ce que j'aime bien avec Egan Bernal, c'est qu'il montre qu'il y a un petit côté vraiment ascenseur social. Tu vois, il est bon. Tu peux, grâce à ça, tu peux aussi bondir d'un coup dans la hiérarchie d'un pays. Et je trouve que c'est vraiment une source d'espoir pour les Colombiens. Ça montre qu'il y a des alternatives, spécialement en Colombie. Mmh. Et ça sert à ça aussi, le vélo. Mmh.
Je suis d'accord. J'ai rien à dire, je suis d'accord.
Voilà. Écoute, je suis un petit peu à sec là quand même. Est-ce que, parce que du coup, j'ai vu hier passer tes écrits récents ou un truc moins récent pour Richey, et justement, tu emportes fièrement le t-shirt. Est-ce que ton côté pas adapté, entre guillemets, physique pas adapté au cyclisme, te fait garder un petit côté vintage où t'as pas envie de rouler sur des super top vélos ou t'es un petit peu attaché justement à des marques comme Richey, ce genre de truc?
Bah, je roule sur des ou est-ce que super c'est le hasard top vélos. Richey, c'est...
Ah, ça, je sais pas, on se connaît pas encore.
Non, mais je roule sur les Richey et c'est des super top vélos. Non, j'ai pas d'a priori comme ça. Je suis pas du tout attiré par les vélos ultra modernes avec tout le câblage intérieur et tout, parce que j'aime bien voir les câbles parce que ça m'aide pour les changer. Non, je dirais que bah, Richie, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais coursier, Richie a sponsorisé notre équipe de coursiers, notre boîte, ce qui, je crois, était probablement une première mondiale. Et donc, on avait accès à ces vélos. Et Carla Mann disait toujours, Richie, c'est autre chose. Richie a inventé le mountain bike, il a fait son premier vélo à 14 ans, tu te rends pas compte, c'est un génie. Moi, je ne savais rien, j'avais acheté à l'époque j'avais mon Surly, quoi, mon fixie, et je ne me rendais pas très bien compte. Mais quand j'ai rencontré Tom en Allemagne, sur un film que je faisais pour Richie, je me suis super bien entendu avec lui. Je suis tombé amoureux du personnage et puis je suis tombé amoureux de ce qu'il m'a raconté, de la vie qu'il avait menée. Je suis tombé amoureux du fait qu'il était au Rwanda quand personne parlait du Rwanda pour le vélo. Il y était juste après le génocide, qu'il a créé un vélo cargo là-bas en fait pour les locaux, pour les coffee farmers, les ramasseurs de café. Qui puissent transporter leurs énormes lots de café sur des vélos beaucoup plus fonctionnels. Et c'est quelque chose qui n'était pas du tout dans la presse, donc il n'a pas du tout fait de pub là-dessus. J'ai une affinité ouais, avec cette marque et si la moustache m'allait bien, je porterais la moustache en son honneur. Maintenant, est-ce que j'essaie d'avoir un aspect vintage? Non, mais quand une marque m'envoie des jerseys aéro, je vois pas trop
Ouais,
l'intérêt.
ça va pas, ça va
C'est
pas quoi.
pas fait pour moi. C'est pas mon but. Je sais pas où je me positionne dans le vélo, mais je pense que dans tout ce qui est ultra distance ou randonnée, on n'a pas vraiment on n'a pas un code spécial auquel on doit se fixer. Et j'essaie pas d'être différent, mais j'essaie de garder mon identité, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas,
Parfaitement.
mes vélos sont en métal. J'ai rien contre le carbone. C'est juste comme ça. C'est un
C'est
hasard.
juste que c'est pas pour, c'est juste pas, c'est juste que c'est pas pour toi, c'est
J'ai
tout. Mais c'est
essayé,
pas grave.
j'ai essayé. Non, j'aime bien. Mais j'ai jamais trouvé encore un vélo qui était aussi confortable que les vélos Ritchie sur les longues distances. J'ai essayé pas mal de marques différentes et j'ai le regret de dire que j'ai jamais rien trouvé d'aussi confortable encore qu'un Ritchie. Je pense qu'il y a des marques comme Fairlight qui font des vélos très efficaces et probablement aussi, peut-être aussi efficaces que les Ritchie et aussi confortables. Mais voilà, pour l'instant, j'ai la chance de recevoir l'aide de Richie. Et ouais, je porte fièrement cette marque. Parce qu'en plus, ça date il y a presque 10 ans maintenant, quand j'étais coursier et qui nous aidait déjà à l'époque, quoi. Mon vélo, en fait, date de cette époque. Je l'ai reçu quand j'étais coursier. Et puis après, le Swiss Cross pour tout ce qui est gravel, ils m'ont envoyé il y a 2 ans, et ça fait seulement 2 ans que je l'ai. Mais genre, c'est des vélos qui durent aussi. Ça, j'aime beaucoup parce que je ne suis pas un partisan du N plus 1 schéma. Oui, j'aime bien avoir l'idée d'un. Mais j'aime bien aussi l'idée d'avoir un minimum de choses dans la vie. J'ai jamais été aussi heureux dans ma vie que quand j'avais très peu de choses. J'ai rarement été aussi heureux que quand j'avais pas d'appartement. J'avais pas de maison. J'étais en tournée. Je voyageais tout le temps. Et du coup, j'avais pas besoin d'avoir ça. Et j'avais un sac avec une caméra et 2 caleçons. Et c'était ma vie. Quand on a déménagé au Portugal avec ma femme, on a voulu faire le voyage de manière intelligente. Donc on s'est dit, on va être obligé d'envoyer un conteneur au Portugal. Donc, nous, quand on va s'envoyer nous-mêmes au Portugal, on va essayer de ne pas avoir une empreinte carbone d'éléphant. Donc, en fait, ma femme a fait tout le trajet avec 2 enfants en train. Et moi, j'ai fait la moitié du trajet en train avec eux et en vélo. Et on a vécu, quand on est arrivé au Portugal, on a vécu, je crois, pendant 3 mois à 4 avec un sac qui était en grande partie occupé par les couches de ma fille. Et on avait vraiment, moi j'avais mon vélo, ma caméra, 2 t-shirts. Et le matin, quand je devais m'habiller, je choisissais ce qui était propre. Et j'ai jamais été aussi heureux. J'ai trouvé ça super libérateur. Et je trouve que c'est un peu pareil dans le vélo. Genre, j'aime bien pas avoir trop de choses. Et c'est bizarre parce que maintenant, je n'achète pas ces choses-là. On les propose. Mais quand une marque me dit ah, tu veux ça et ça et ça, je suis là, genre, bah non. Je suis désolé, j'ai pas besoin, quoi. Donc, le minimum que je dois porter pour vous représenter, mais non, j'ai pas besoin de plus que d'un t-shirt Richie, ou j'ai pas besoin de plus que d'une paire de lunettes POC, j'ai pas besoin de 25 casques différents. Et surtout, j'adore le minimalisme. C'est pas un style vestimentaire ou un style de vélo, mais c'est un mode de vie. Et c'est pas le fait d'avoir moins, mais c'est le fait de se sentir plus libre avec ce qu'on a. Et je ne vois pas changer de vélo. Enfin, faudra me payer très cher pour que je change de vélo.
Ben, je pense que ça sera le mot de la fin, dis donc. Pas besoin de faire de longs discours. Il n'y a pas besoin de faire de longs discours. Le seul long discours que je vais faire, c'est pour t'expliquer la marche à suivre. Moi, je vais me barrer de la pièce. Okay. Je vais te laisser face à la caméra et tu vas dire ce que tu veux. Donc, ça s'appelle la minute de solitude. Okay. Tu dis ce que tu veux pendant le temps que tu veux. Tu t'exprimes. Voilà. C'est un espace d'expression. Ça t'en a l'habitude. Mm-hmm. Ça reste ton job, finalement. En attendant, merci. Quand t'as fini.
Ouais.
Ça, c'est important. Quand tu as fini, tu quittes la pièce. Éventuellement, tu coupes la caméra et le micro et tu laisses l'onglet et la fenêtre, ton ordinateur ouvert le temps que les fichiers soient rapatriés chez moi.
D'accord.
Je t'envoie un message pour te dire quand c'est bon. Mais tant que je t'ai pas dit « Ok, c'est bon », tu fermes pas. D'accord ?
Ok. Donc, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fini ? J'appuie sur la caméra et le micro, c'est tout ?
Exactement, comme ça je t'entendrai pas aller faire pipi, parce que c'est déjà arrivé,
ouais,
surtout
ouais,
que là
ouais.
C'est ce que je m'empresse d'aller faire, donc, mais en même temps c'est cool.
Quand on faisait les interviews en télé, on avait ça tout le temps, quand tu mets un micro-cravate sur quelqu'un et que tu fais un interview, ils oublient tout le temps le micro-cravate, et on a eu ça sur MTV, quand je travaillais sur MTV, on avait un présentateur, on l'entendait aller au chiottes faire des lignes de coke, parce qu'il avait oublié qu'il avait un micro. Donc j'oublierai pas.
C'est tellement cliché comme truc, mais bon, en même temps ça correspond à la réalité, c'est comme ça.
C'était ce que c'était, on était jeunes et... moi j'étais pas du tout dans le délire, mais c'était rigolo. Ok,
merci Ryan,
merci à toi,
et on s'écrit là, je dois me sauver, demain je suis pas là. Et vendredi, pareil, mais je t'écris la semaine prochaine. Il faut qu'on cause.
D'accord, ok.
Ok,
ça marche.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
C'était génial.
Merci.
Merci beaucoup.
Salut, Richard.
Salut.
Donc, c'est ma minute de solitude qui vient après 8 jours de quasi solitude sur la route. Et je ne sais pas quoi dire à mon ordinateur. Peut-être je vais parler du prochain fail qui sera sur la liste dans 1 mois ou 2, je pense. Quand j'étais petit, je me plaignais ou je me faisais mal. Ben, on disait toujours il n'y a pas de quoi écrire une lettre à sa grand-mère. Et puis ma grand-mère est morte. Et j'y ai jamais pensé avant, mais je me suis dit que j'allais lui écrire une lettre et que ce serait probablement mon prochain travail sur un fait. Ma grand-mère faisait 70 km de vélo par jour pendant la guerre. On sait pas trop exactement pourquoi, mais il y a probablement une histoire de résistance et de documents. Mon grand-père était colonel dans l'armée française. L'infanterie, c'était le plus jeune colonel quand il a commencé. Et il est mort très jeune. Ironiquement, il est mort en allant chercher le pain un matin. Il avait 40 quelque chose. Et donc, ma grand-mère a élevé mon père, ma tante et mon oncle seul. Et voilà, le prochain fait, ce sera une lettre pour elle. C'est quelqu'un de super important dans ma vie, encore plus en fait depuis qu'elle est passée. Et ça, ouais, ça me tient beaucoup à cœur de lui écrire cette lettre, parce que finalement, il y a de quoi écrire une lettre à sa grand-mère. Il y a toujours de quoi écrire une lettre à sa grand-mère. Il ne faut pas rater les occasions d'écrire une lettre à sa grand-mère. Et si j'avais quelque chose à dire aujourd'hui, je crois que c'est ça que j'aurais envie de dire. Et si ma grand-mère avait quelque chose à dire, ce serait probablement de faire ce que vous voulez dans la vie et de laisser personne vous dire que ce n'est pas possible. Et si vous avez envie de le faire, faites-le. Et si vous avez envie de faire des chaussures, n'essayez pas de vendre des steaks. Continuez à faire des chaussures, sans compromis. Voilà, je crois que je peux arrêter. Merci beaucoup, Richard.